retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles.
Bonjour à toutes, bonjour, bienvenue à Jordan du Balcon des Étoiles. Jordan, déjà bonne année.
Eh ben bonjour et puis bonne année Bruno.
Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette année au Balcon des Étoiles?
Plus d'étoiles dans le ciel.
Ah, il y en a déjà beaucoup, hein. Il y en a déjà beaucoup. D'ailleurs, on les a comptés un petit peu, on sait combien il y en a.
Oula, moi je m'amuserais pas à les compter une par une comme ça à l'œil.
Plein de bonnes choses cette année sur le Balcon des Étoiles. Pour rappeler également que vous avez un calendrier, vous avez ressorti un calendrier cette année.
Oui.
Qu'on peut acheter sur place.
C'est ça.
D'accord. Et qui va pouvoir répertorier toutes vos activités tout au long de l'année au Balcon des Étoiles.
Voilà, c'est ça, notre actualité au Balcon des Étoiles. Et puis l'actualité, c'est un calendrier astronomique, donc on va retrouver tous les événements astronomiques du ciel mois par mois dans ce calendrier pour 2023.
Parce que le Balcon des Étoiles, juste un petit rappel, c'est un centre astronomique qui se situe à La Trappe, dans lequel vous faites des stages, des animations et des soirées débats.
C'est ça, exactement. Des soirées d'observation, des stages de formation pour ceux qui veulent se former à l'astronomie amateur. On a aussi un club pour ceux qui souhaiteraient adhérer, hein, où on propose pas mal d'activités. Donc, c'est un petit peu tout ça, le Balcon des Étoiles.
Très, très bien. Bon, alors, on va parler du ciel, évidemment, des étoiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans notre ciel? Et je suis comme la plupart des gens, c'est-à-dire quand je parle du ciel, je parle de ce qui se passe au-dessus de ma tête.
Voilà, tout à fait. Bah déjà, à commencer par un retour sur la mission Artemis 1 qui s'est achevée donc le mois dernier en décembre 2022.
Elle a eu du mal à décoller, non?
Ah oui, il y a eu pas mal de retards effectivement et de où on a reprogrammé le lancement. Alors à cause de la météo, à cause de petits soucis techniques sur le lanceur SLS Space Launch System, donc. Mais bon, elle a fini quand même par décoller au mois de novembre.
Son objectif, c'est quoi?
Alors, c'était une première mission test, finalement, pour le retour de l'homme sur la Lune. Alors, tout ce qui est autour de la NASA, bien sûr, hein, ça a été plutôt un succès, puisque même si elle est partie avec du retard par rapport au premier lancement prévu, elle a effectué les tests qu'elle devait faire. Elle s'est approchée au plus près de la Lune, hein. On retrouve des images à nouveau sublimes, hein. Quand on voit le vaisseau passer au plus près de la Lune, c'est avec la Terre en fond, c'est sublime. Et puis elle a fini par donc revenir sur Terre. On l'a bien récupéré les mannequins à l'intérieur qui étaient là plus en décoration qu'en test, hein, puisque ce ne sont que des mannequins. Et on a fini par effectivement avoir donc ce premier pas. Des missions Artemis, on attend maintenant Artemis 2. Alors, ce sera la première mission habitée, hein, où on va donc cette fois-ci non plus envoyer des mannequins, mais des êtres humains, mais qui viendra un peu plus tard, d'ici de 2024, normalement. Donc, on a le temps de voir venir encore.
Artemis 1 est parti, mais c'est une partie qu'on a récupérée seulement, c'est la capsule Orion, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est le jeu. Alors, quand on voit les images du lanceur. Avant le lancement, ben nous, ce que l'agence récupère, c'est juste le petit vaisseau qui est tout en haut. C'est-à-dire que tout le reste, ben en fait, c'est retombé lors du lancement, quelques minutes après le lancement, en fait, hein, dans l'océan Atlantique, et voilà, c'est perdu.
Et ça retombe directement sur Terre, ou c'est pour les autres parties, c'est ça tombe dans l'atmosphère et c'est brûlé quand
voilà,
ça tombe.
Exactement.
Mais en parallèle, si souvenirs aussi, mes lectures sont bonnes. Dans le même temps, les Chinois ont envoyé 6 astronautes dans l'espace, non?
Ils les envoient par 3, mais effectivement, ils sont 6 maintenant dans leur station spatiale chinoise, donc qui est terminée. On a tous les modules. Et effectivement, donc la Chine qui ne perd pas du temps et qui fonce dans le domaine du spatial.
Dans le domaine du spatial, et c'est aussi encore une fois la course vers la Lune pour certains.
Ah oui, puisque finalement, on a ce retour un petit peu d'ambiance de guerre froide qu'on avait dans les années 50-60, où on veut retourner sur la Lune, on veut faire plus de choses, bien sûr aussi sur la Lune, s'y installer, voilà. Et en fait, on ne fait pas ça sous forme d'une grande coopération internationale, tous les êtres humains ensemble. Non, on a toujours effectivement ce côté donc bloc en fait qui ressort. Alors on va dire toujours ce bloc de l'Ouest avec les États-Unis, l'Occident, on va dire. Et on a effectivement ce côté Russie, mais on a le bloc de la Chine. Enfin, il y a plein de pays émergents aussi, hein. L'Inde, le Brésil, etc. Plein de pays, les Émirats arabes, qui commencent effectivement à ressortir de tout ça. Et donc, finalement, ça forme un tout, effectivement, une espèce de multi-concurrence ou non, qui fait que on veut maintenant effectivement pleinement s'installer. On s'était installé pleinement dans l'espace proche autour de la Terre avec tous les satellites qu'on a lancés. Maintenant, on commence à voir un petit peu plus loin.
Et on a aussi le plus gros lanceur, SpaceX, qui lui vise Mars.
Voilà, alors effectivement, on va d'abord quand même l'utiliser plus pour la Lune, hein, puisque c'est donc Super Heavy qui va effectivement, qui est un lanceur gigantesque, hein, qui est même plus grand que le SLS, c'est vraiment
énorme. C'est la plus grosse fusée qui existe actuellement.
Ah voilà, alors qu'il est en cours de test encore, même test de plus en plus concluant. Et alors normalement, effectivement, ce Starship donc devrait déjà commencer à amener des hommes effectivement sur la Lune. Mais l'objectif effectivement d'Elon Musk, donc le patron de SpaceX, c'est effectivement d'aller vers Mars.
Ça, c'est le décollage de la Terre vers le ciel. Et dans le ciel, directement, il se passe plein d'autres choses aussi. En particulier avec le fameux télescope qui a été lancé il y a un an et demi maintenant, à peu près.
C'est ça. Alors, ça fait un petit peu plus d'un an, hein, puisque le James Webb a décollé donc depuis Kourou en Guyane avec une Ariane 5. Donc, c'était le 25 décembre 2021. Donc, forcément, ça fait un an depuis le 25 décembre 2022. Et en un an, il s'est passé des choses. Alors, il s'est installé. Il a commencé effectivement depuis le début de l'été à nous faire de super belles images. Alors, des images époustouflantes, hein. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à se rendre sur les sites d'imagerie du James Webb. Alors, on a le site plutôt attrait à la NASA qui s'appelle webtelescope.org. Ou alors, si vous voulez avoir un côté un peu plus européen, vous avez le site esaweb.org qui, alors là, où vous allez trouver des milliers d'images que vous pouvez télécharger. C'est en libre accès puisque c'est dans le domaine public, hein, c'est des agences gouvernementales, tout simplement sublimes, hein, des images en très très haute qualité.
Au-delà de la beauté de ces images et au-delà, je dirais, de l'aspect esthétique, c'est un intérêt scientifique.
Alors, ces images-là, elles peuvent tout à fait avoir un intérêt scientifique, puisque il y a des images, effectivement, qu'on sort plutôt retravaillées sur la couleur pour le grand public, pour avoir de belles images. Mais derrière, c'est avec ces images-là qu'on travaille aussi pour l'analyse des objets qu'on observe. Donc, au final, il peut y avoir très peu de différence entre l'image d'analyse et celle qui va ressortir pour le grand public.
Par exemple, on a pu apprendre quoi de plus depuis que James Webb est lancé?
Alors, James Webb, il nous a déjà permis d'observer des objets qu'on n'avait jamais observés jusqu'alors, parce que ce sont des objets qui sont très, très, très lointains. Des galaxies très, très lointaines qui se situent à des dizaines de milliards d'années lumière de la Terre. Et déjà, c'est une super chose, puisque on en apprend un peu plus, du coup, sur l'histoire, les débuts de notre univers. Ensuite, James Webb, il analyse aussi notamment l'atmosphère d'exoplanètes. Alors ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant quand on sait que cette recherche de l'ailleurs dans notre univers, dans notre galaxie, savoir ce qui se passe sur d'autres planètes, est-ce qu'on pourrait y trouver de la vie, c'est quelque chose effectivement qui intéresse tous les scientifiques aujourd'hui. On a aussi bien sûr l'analyse de la formation d'étoiles, de systèmes planétaires autour de ces étoiles. James Webb, il est formidable. Il observe aussi un petit peu notre système solaire. Il a observé Jupiter notamment. Alors il est formidable.
On a vu également qu'avec James Webb, on a été capable de voir des choses passées, parce que c'est des choses qui sont très très loin. Donc le temps que ça nous arrive en termes d'imagerie, ça s'est passé il y a très longtemps. Mais des formations de trous noirs, des explosions d'étoiles.
Exactement. Alors là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Là, il y a pas si longtemps, le télescope spatial James Webb a observé donc la nébuleuse de l'anneau austral. Et alors, on savait qu'il y avait des étoiles en formation dans cette nébuleuse. Et là, James Webb, effectivement, vient d'en découvrir d'autres. C'est un petit peu l'exemple pris au hasard, hein, comme ça, de tête, mais qui montre bien que James Webb, c'est un instrument qui révolutionne et qui va révolutionner encore un peu plus l'astronomie, nos connaissances que l'on a, notamment plus sur l'univers à grande échelle et justement le trou noir et fin des étoiles. Alors, plutôt axé aussi sur la naissance, comment tout débute, parce que ça, c'est une question primordiale pour les scientifiques.
Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs quels sont les sites sur lesquels on peut les revoir ces images ?
Oui, alors vous avez webtelescope.org ou ESA, hein, E-S-A, web.org. Alors ça, c'est pour les images du télescope spatial James Webb. Si vous êtes plutôt attrait à l'image plutôt historique de la conquête spatiale, si vous voulez retrouver des images de toutes les missions sur le globe, il y a aussi le site wikiarchive.space qui, lui, est fait par un youtubeur, hein, Vincent Edelberg, qui de sa chaîne Stardust sur YouTube. Alors lui qui essaie de regrouper effectivement la plus grande archive sur l'ensemble de l'actualité spatiale dans le monde. Et donc allez voir, hein, c'est formidable. Il y a des milliers d'images qui sont en très bonne qualité et vous pouvez retrouver des vieilles images au début de la conquête spatiale, comme le lancement des dernières missions, des dernières sondes, il n'y a pas si longtemps que ça.
Comme on parlait un petit peu de l'homme sur la Lune, de l'espace, de la conquête spatiale, il faut quand même noter qu'au mois de novembre, on a eu une nouvelle Française qui a été sélectionnée pour s'entraîner pour partir sur une prochaine mission.
C'est ça, alors c'est Sophie Adenau, qui est donc la nouvelle spationaute française, on devrait dire, puisqu'en Europe, on parle de spationaute. Astronaute, c'est les Américains, cosmonaute, c'est les Russes, et taïkonaute, c'est en Chine. Sophie Adenau, nouvelle spationaute, qui effectivement donc va commencer ses entraînements pour aller, je pense, déjà visiter un petit peu, faire une mission dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui sera certainement intéressée aussi par la Lune, bien sûr. Et alors, je vais quand même mentionner aussi Arnaud Prost, qui est le spationaute français sélectionné pour être... Il est spationaute de réserve. C'est-à-dire qu'on va l'appeler si on a besoin... Mais il est quand même sélectionné. Donc.
Il est formé, pardon, au même titre que
exactement,
que la dame,
il a passé
qui,
le même
qui était, donc, c'est une spationaute, comme tu dis, qui a une quarantaine d'années, qui était pilote d'essai.
C'est ça, tout à fait.
Donc, c'est comme des gens qui ont déjà un entraînement physique, un entraînement lié au stress, qui est très important.
Voilà, c'est comme pour Thomas Pesquet, effectivement, qui, lui, était déjà pilote. Ce sont des gens, effectivement, qui ont les connaissances et qui ont déjà une base, une première base qui est proche de celle qu'ils vont retravailler et qu'ils vont travailler à l'Agence Spatiale Européenne.
On est encore loin des missions dans l'espace purement touristique.
Ah, on peut peut-être plus très loin.
Ça, c'était pour la partie James Webb, la partie donc conquête spatiale. Et maintenant, dans l'actualité des astres eux-mêmes, il se passe quoi en ce moment ?
Alors, pour ce mois de janvier 2023, on a tout d'abord déjà le 4 janvier. Il faut noter que la Terre arrive à son point donc le plus proche autour du Soleil, sur son orbite, le point qu'on appelle périhélie. Donc là, il faudra se dire que ce 4 janvier... La Terre était à peu près à 147 millions de kilomètres du Soleil. Alors, ça paraît quand même beaucoup, hein, 147 millions de kilomètres, c'est à l'échelle humaine, c'est énorme. Mais c'est effectivement à peu près environ le point le plus proche qu'on ait autour du Soleil. Et pourtant, ben on est en hiver, on a un peu plus froid. Alors, ça n'a rien à voir puisque c'est par rapport aux saisons, donc l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Parce qu'on a déjà parlé dans nos émissions. À savoir que le point, donc à l'opposé, le point le plus éloigné de l'orbite terrestre, celui qu'on appelle l'aphélie, se trouve à 152 millions de kilomètres. Vous voyez, il n'y a pas grande différence, 5 millions de kilomètres dans l'espace autour du système solaire, c'est pas grand-chose. Pour garder ce vocabulaire, hein, de mécanique céleste, le 8 janvier, la Lune est à l'apogée. Donc, sur son orbite par rapport à la Terre. Alors, vous voyez, il y a déjà une différence de vocabulaire, puisque Hélice et Hélios, le Soleil, en grec, G, c'est Géo, c'est la Terre. Donc par rapport à l'astre autour duquel on va tourner, on va avoir cette différence de vocabulaire. Plus généralement, on va parler de périastre et apoastre pour être plus généraliste. Et donc là, la Lune à l'apogée, ce 8 janvier, ça veut dire que dans le ciel, en toute logique, eh ben, elle est au plus loin, et donc on la voit un peu plus petite, son diamètre est un petit peu plus petit dans le ciel, quand on la regarde effectivement à l'œil nu, ça peut se voir.
Donc apogée, l'inverse de l'apogée c'est
périgée.
Périgée, là c'est quand elle est plus près de la Terre, et donc c'est là qu'elle est la plus grosse en fait à l'œil nu.
Tout à fait, 4 janvier, la Terre au périhélie, le 8 janvier, la Lune est à l'apogée.
Ça, c'était pour la Lune. Et puis, on a aussi des astres qui réapparaissent. Enfin, qui ne sont jamais, ils n'ont jamais vraiment disparu. Mais on peut les retrouver.
C'est ça. Alors, on a Vénus, qui est l'astre le plus brillant dans notre ciel, après le Soleil et la Lune, bien sûr, qui va revenir petit à petit maintenant le soir. On pourra observer donc ce point brillant du côté ouest, juste après donc le coucher du Soleil, quand le ciel sera dégagé, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent, puisque Vénus, c'est une planète qui est plus proche du Soleil que de la Terre, et donc elle fait le tour du Soleil plus rapidement que la Terre ne le fait autour du Soleil. Donc ce qui veut dire que Vénus, en général, on peut l'observer assez souvent. De ce même titre, on a Mercure, qui est encore plus proche, hein, la planète la plus proche du Soleil, qui sera visible, elle, à la fin du mois de janvier, plutôt le matin. Donc il faudra l'observer juste avant que le Soleil se lève. On verra ce point, alors qui est assez brillant aussi, juste au-dessus de l'horizon est, hein, au-dessus donc du Soleil, à la fin de ce mois de janvier.
Et a priori, comme on est en hiver, le ciel, quand il est dégagé, ces planètes sont facilement visibles.
Voilà, le ciel plus généralement est en effet plus joli à regarder, plus transparent, on va dire.
Bon, on a parlé tout à l'heure, on est début janvier. Comment cette histoire de peut-on mesurer en fait ce cycle de l'année? Comment ça s'est fait dans l'histoire du temps, savoir que on revient au même endroit, à la même place?
Alors ça existe depuis très très longtemps, puisque déjà dès la fin de la préhistoire, les hommes savent et surveillent en fait le ciel, qui leur apprend plein de choses sur le temps qui passe, les saisons. Et on a, pour donner un exemple, beaucoup d'observatoires monolithiques, Stone Age par exemple, ou plein d'autres, qui permettaient effectivement de mesurer le temps en observant notamment par exemple le soleil. Si le soleil était visible au même endroit après un certain temps donné, ben on savait que pour le coup, effectivement, une année s'était écoulée. Alors on peut faire la même expérience aujourd'hui chez soi, avec une fenêtre qui donnerait côté sud sur l'horizon, et alors on verrait effectivement la lumière du soleil en fonction de la saison qui va se déplacer dans la pièce différemment. En hiver, on va avoir la lumière du soleil qui va plus pénétrer dans la pièce, puisque bah, le soleil est plus bas, et donc forcément la lumière va pouvoir plus facilement se déplacer sur les murs, tandis qu'en été, bah, le soleil est plus haut, proche du zénith. Et alors là, la lumière du soleil, en général, pénètre moins, effectivement, sur cette fenêtre qui donnerait côté sud.
Donc, on est capable d'utiliser depuis très très longtemps. Au début, on observait la Lune. Et puis après, c'est le soleil en même temps, parce que c'est quand même des périodes qui sont assez longues, le soleil. Pour être capable de repérer dans le temps sur une période aussi longue, c'était quand même assez...
Voilà, alors la Lune a aidé aussi, puisqu'effectivement, quand on regarde un petit peu le mois que l'on a dans l'année, correspond à peu de choses près, à quelques jours près, en fait, au cycle lunaire, c'est-à-dire une lunaison autour de la Terre, lorsque la Lune a fait un tour complet autour de la Terre. Et quand on sait effectivement que cette révolution prend 29 jours, on voit vite la cohérence qu'il y a avec le mois que l'on a aujourd'hui. Donc en fait, c'est cette construction qui s'est faite sur notre calendrier, qui s'est faite sur l'espace.
Mais il faut quand même bien voir que ce sont des conventions. Parce que même sur Terre aujourd'hui, nous n'avons pas encore tous le même calendrier. C'est-à-dire que nous avons, nous, un calendrier grégorien, basé donc sur la rotation du Soleil et puis sur un certain rythme de saison et d'années. Il y en a d'autres qui ont le calendrier de l'Égypte, basé sur la Lune. D'autres encore sur les Chinois, par exemple, encore un autre calendrier.
Voilà, il y a là aussi l'aspect historique de chaque civilisation qui intervient là-dedans, bien sûr. Alors, pour donner un petit exemple marrant, si un jour on s'installe sur Mars, il faudra prévoir un calendrier qui sera encore plus long que sur Terre, puisque Mars, elle met presque 2 ans à faire le tour du Soleil. Donc ce sera pas 365 jours qu'on aura dans le calendrier, c'est presque le double.
Ça, c'est, on parle de calendrier, merci pour la transition, parce qu'on va parler maintenant du calendrier du Balcon des Étoiles. Le Balcon des Étoiles, donc, qui se situe à La Trappe, dans lequel il y a des formations, dans lequel il y a des animations, dans lequel il y a des repas découverts, dans lequel il y a des projections de films. Il y a quoi ce mois-ci, ce mois de janvier, au Balcon des Étoiles? Déjà, je crois qu'il n'est pas ouvert tout le temps.
Voilà, alors, étant donné qu'on le Balcon des Étoiles a pris sa pause hivernale depuis le 15 décembre dernier, là, le 15 janvier, c'est le réveil. Donc le réveil, alors non pas des équipes qui ont toujours été à pied d'œuvre même pendant ce mois d'arrêt, c'est le réveil du balcon pour l'accueil du grand public, des scolaires, à partir de ce 15 janvier. Et on reprend tout doucement, effectivement, avec des soirées d'observation qui continuent comme toujours, bien sûr. On a à nouveau donc les séances de cinéma 360. Le mercredi et le samedi dans l'après-midi.
C'est quoi ça, les séances de cinéma 360?
Alors, ce sont donc des séances d'une heure. Le mercredi, c'est plutôt jeunesse, donc avec un dessin animé qui va expliquer aux plus jeunes comment comprendre le ciel quand on voit effectivement les étoiles, la lune, les étoiles filantes, la nuit. Et alors, le samedi, c'est plutôt un documentaire tout public, grand public, on va dire, qui est suivi donc à chaque fois d'une présentation du ciel du soir sur une séance d'une heure. Ça permet effectivement de passer un bon moment. Voilà.
Donc ça, c'est le mercredi et le samedi, toutes les semaines, une fois par mois?
Toutes les semaines.
Toutes les semaines, d'accord. Pour y participer, il faut réserver, j'imagine?
Voilà, tout se passe par notre site internet.
Qui s'appelle?
Alors, c'est les-pléiades.asso.fr.
les-pléiades.asso.fr.
Voilà, ou en recherchant Balcon des Étoiles sur votre navigateur, on le trouve.
Donc ça, c'était pour le cinéma du mercredi et du samedi, et il y avait des repas souvent aussi.
Voilà, des repas. Alors les repas reprendront plus facilement à partir du mois de février. Donc vous pouvez dès maintenant aller voir les dates aussi sur notre site internet. Surtout que pour cette année 2023, on a un petit nouveau qui est donc arrivé dans notre équipe instrumentation, on va dire. Alors, c'est un nouvel instrument que l'on a surnommé Little James. Alors, je vous laisserai chercher pourquoi Little James. Ça fait écho très facilement à notre télescope, à notre instrument qui est au-dessus de nos têtes, qui est un iviscope.
Donc de
iviscope, et qui est un télescope qui permet effectivement d'avoir de l'imagerie, notamment en couleur, pour tout ce qui va être ciel profond, galaxies, nébuleuses. Et donc, en toute logique, on vous permettra de repartir avec ces belles images, soit via une clé USB, soit en vous les envoyant directement sur une adresse mail, pour pouvoir ensuite partager avec votre famille, vos amis, l'expérience du Balcon aux Étoiles.
Donc ça, c'était pour les soirées, et des formations aussi qui sont prévues peut-être pas tout de suite, mais qui vont nécessiter des inscriptions également.
Voilà, alors au début des vacances scolaires en février, donc le week-end du 18 et 19 février, on a effectivement à nouveau donc les premiers stages étoiles de l'année, première et deuxième étoile, qui vont venir. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez dès à présent aller voir et vous inscrire.
On n'y manquera pas, Jordan. Donc le Balcon des Étoiles à La Trappe, c'est pour toutes ces animations sur le ciel et la découverte de tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Merci d'être venu nous en parler sur Radio Galaxie.
Merci à vous.
Et puis écoute, au mois prochain pour de nouvelles aventures spatiales.
Tout à fait.
Bonne année encore et à très bientôt, Jordan.
À très bientôt, merci beaucoup.
Un soir sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée. Elle m'a souri au creux des mains, comme si c'était normal, je crois qu'elle m'attendait.